Prenons la parole du Seigneur dans la deuxième épître aux Corinthiens pour parler en ce jour sur quelque chose d'important. Aucun verset ne doit être négligé. La Bible, bien sûr, dans son ensemble et dans ses détails. C'est dans 2 Corinthiens 5. Nous regardons bien les mots. Nous laissons le Saint-Esprit graver ses paroles, écrire ses paroles en nous. Car elles font partie de notre salut. Pas de salut sans la parole de Dieu. C'est elle qui nous façonne. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est-à-dire conforme à Dieu. Amen. La réconciliation. Pas seulement un pardon, mais une réconciliation. Il y a des gens qui disent « je pardonne, mais je ne veux plus le voir ». Vous connaissez l'histoire du fils prodigue et du père admirable. Le père n'a pas dit « il est parti, je lui pardonne ». Bon, mais c'est fini. La joie du père, c'était de revoir son fils revenir, non ? Dans une réconciliation. La réconciliation, c'est rétablir de bonnes relations. Cela suppose qu'il y a eu un amour perdu. Une relation perdue, une présence perdue. Ce mot réconciliation, il fait partie de nos affaires sentimentales, nos affaires de mariage. Dieu s'est réconcilié avec nous. Amen. Nous a réconcilié avec lui. De nous-mêmes, nous n'étions pas capables. Nos œuvres les plus belles ne correspondent pas à la mentalité de Dieu. Même si c'était parfait. C'est pas comme cela que Dieu voit les choses. Donc, ne cherchons pas à nous réconcilier ainsi. Il est dit, il nous a réconciliés avec lui. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est réconcilié parce qu'il avait commis des fautes, parce qu'il s'était écarté de nous. Il nous a réconciliés. Il ne s'est pas réconcilié, il nous a réconciliés. Vous voyez la différence ? Il a fait un pas pour nous prendre avec lui, nous attirer à lui. Autrefois, nous étions des ennemis parce que nous avions des pensées complètement contraires à Dieu, horribles ou parfois pas trop horribles, mais contraires à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des frères et sœurs pardonnés, bien plus des frères et sœurs réconcilié. Amen. Ce qui veut dire en relation avec lui, relié à lui. Pas des électrons libres là qui circulent en disant « je suis en paix, je connais Dieu ». On colle avec Jésus-Christ. On est toujours avec lui. On vit avec lui. Amen. Et quand on vit avec le Seigneur, on reçoit ce parfum de lui. Tellement proche qu'on reçoit de lui un pouvoir de transformation. Quand on est très 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 près de quelqu'un qui a du parfum, le parfum vient sur nous, hein, non ? Autrefois, il y avait des wagons dans les trains qui n'étaient pas non-fumeurs. Tout le monde fumait. Hein. C'était terrible. Quand on sortait du train, on sentait tous le tabac. J'aurais préféré des wagons parfumeurs que fumeurs, non ? Et quand on est proche du Christ, dans la relation réconciliée, je pense qu'il y a quelque chose qui change en nous. Portons son odeur. Hein, vous comprenez ? Et le mot réconcilier veut dire littéralement devenir autre, changer. Quand on est en relation avec lui, des choses changent en nous. On devient des nouvelles créatures. Amen. Et Dieu, le Seigneur ici, l'apôtre Paul, il parle à l'église de Corinthe un langage étonnant. Il dit aux chrétiens de Corinthe, soyez réconciliés avec Dieu. Tes frères, on est chrétiens depuis 30 ans. Vous n'allez quand même pas nous prendre pour des non-chrétiens. Soyez réconciliés avec Dieu. J'ai l'impression que Paul veut dire, il y a dans votre vie des cassures, des déchirures avec Dieu. Il y a des fils qui se sont cassés. Il y a un manque de relation. Et il faut renouer avec le Seigneur. Il faut faire des petits nœuds. Regardez l'apôtre Pierre. Quand il est devant le tribunal, devant Caïphe, et que il renie, il nie Jésus. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Ma tête a coupé. Je ne connais pas cet homme. Il s'effondre, Pierre. Et Jésus va le réconcilier avec lui-même. Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Il nous réconcilie avec lui-même. Que faisons-nous dans la réconciliation avec Dieu ? Est-ce que nous sommes passifs ? On attend que ça se passe. Ou est-ce que nous faisons quelque chose ? Oui, nous nous convertissons. Et chaque jour, dans les détails, nous renouons avec lui. Nous nous conformons à lui. Nous lui ressemblons. Côté de Dieu, la réconciliation, elle est parfaite, elle est faite. Il s'est réconcilié avec le monde entier. C'est écrit. Le chemin est ouvert. La porte est ouverte maintenant. Mais il faut que nous le sachions, il faut que les autres le sachent, il faut que les autres l'acceptent, il faut aller le dire aux autres. Le repas est prêt, les noces sont prêtes, les bêtes grasses sont tuées, la table est mise, les plats sont fumants, mais il faut le dire aux autres. Voilà le ministère de la réconciliation. Il envoie ses apôtres pour dire à tous les hommes qu'ils rencontrent sur leur route, venez aux noces, tout est prêt. Venez, la porte est ouverte. Le Seigneur a enlevé l'obstacle qui nous séparait de lui. Venez. C'est la parabole du fils prodigue. Il fallait qu'il revienne. Le Seigneur nous confie à vous et à moi le ministère de la réconciliation. Le ministère du facteur qui va dire aux autres: j'ai un message pour vous. La table est mise. Tout est prêt. réconciliez-vous avec Dieu. Sans ce ministère, la croix ne servirait à rien. Parce que Dieu ne frappe pas aux portes et ne contraint personne. C'est nous qui allons chercher. Nous sommes le trait d'union. Nous sommes le passage entre Dieu et les hommes que Dieu veut se réconcilier avec lui. Satan ne peut pas détruire le repas qui est fait, la croix, la résurrection, tout est prêt, tout est beau, tout est lumineux. La seule chose que Satan peut faire, c'est essayer de troubler les facteurs, pardonnez-moi, les ministères de la réconciliation, pour ne pas qu'ils arrivent au but. Il va mettre des bâtons dans les roues des vélos. Il va tout faire pour que les frères et les sœurs trébuchent et oublient qu'il faut aller dire aux autres que le Seigneur les attend parce qu'il a tout accompli. Amen. C'est le message central de l'Église. Pas un message de condamnation, même s'il y a des injustices devant lesquelles on prend position, c'est vrai. Un message, Dieu nous a réconciliés avec lui et Dieu nous demande de nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Ce message de la réconciliation, il faut que nous le vivions dans notre vie chaque jour. Il faut que nous regardions tout ce qui a besoin d'être bien harmonieux avec Dieu, bien harmonieux avec les autres. L'Église est la seule voie, la seule bouche au monde qui apporte la parole de la réconciliation. Venez, tout est prêt. Cette réconciliation, il faut aussi qu'elle se vive entre nous. Si tu présentes ton offrande à l'autel, dit Jésus, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier d'abord avec ton frère, ou ta femme, ou ton mari, ou tes parents. Quand je me réconcilie avec mon frère, je suis en marche vers une réconciliation avec Dieu. Parce que dans ma vie, il n'y a pas que Dieu. Il y a Dieu et vous, et les autres. Amen. Je ne suis pas tout seul sur une île déserte dans le Pacifique. Je suis avec vous, avec tout le monde. Les épîtres nous enseignent la priorité de la réconciliation. Va d'abord te réconcilier. Et Paul dit aux Philippiens, j'encourage, j'exhorte Madame Évodie, Madame Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Elle ne pouvait pas se sentir. C'était deux sœurs fâchées. Je les encourage à se réconcilier avec dans un même sentiment. Nous avons du travail à faire. Amen. Je pense. Mais si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons reçu un comportement, le comportement des béatitudes du Christ, comportement de l'amour, de la simplicité, de la pauvreté, des capacités d'être proche des autres, pour donner aux autres de l'amour et de la confiance. Important la réconciliation. C'est quand deux ou trois sont réunis en son nom, d'un même cœur. Il ne s'agit pas de dire deux ou trois qui se croisent dans la rue. Réunis, unis, en union, un. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. La réconciliation avec nos frères et nos sœurs, notre famille, nous assure la présence de Jésus et l'exaucement de nos prières. Pierre le dit dans son épître. Si le mari n'est pas conforme, si la femme, etc., s'il y a des problèmes dans le couple, je résume, c'est un obstacle à vos prières. C'est Pierre qui le dit. Chapitre 3. Donc la réconciliation familiale, la réconciliation dans l'Église, permet l'exaucement des prières. c'est l'œuvre centrale de la Bible et c'est notre œuvre majeure. Être un même sentiment, un même cœur, un même esprit. La réconciliation va faire de nous des gens un peu vulnérables, fragiles. Parce que pour se réconcilier, il faut parfois descendre de son échelle, de son piédestal. Il faut dire, bon, j'ai tort. J'ai du mal à le dire. J'ai eu tort. Je vous ai mal jugé. Je vous ai mal compris. La réconciliation. Les chrétiens dans ce monde ne vont pas traverser la vie sans conflit. On n'est pas dans des bulles. On se frotte, mais quand on est des bons moutons, on est couvert de laine, alors ça va. Mais il y a des cornes aussi. Hein. On traversera la vie avec des conflits. Jésus dit, pensez-vous que je suis venu sur la terre apporter la paix? Non, je suis venu apporter l'épée. Oh. Parce que désormais, il y aura division dans les familles à cause de moi. Je résume. Le père contre le fils contre le père, 2-3, 3-2. Qu'est-ce que nous vivons parfois dans nos maisons? Et Jésus sait que nous allons rencontrer ces obstacles, mais nous devons imiter le réconciliateur. Faire miséricorde. Être des artisans de paix. Être doux et pacifique. Pas facile, hein, la réconciliation. Je pense qu'il faudrait parler aussi de la réconciliation avec notre vocation. Notre vocation de prière qu'on a un peu oubliée parce qu'on ne s'y attache pas assez. Il faut se réconcilier avec la prière. Il faut se réconcilier avec la lecture quotidienne de la Bible. Il faut se réconcilier avec notre vocation d'être des ouvriers avec Dieu, des pierres vivantes qui communiquent la chaleur et la vie. Dans l'Église, c'est un grand domaine. Et ce domaine-là, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais ces temps de réconciliation dans l'Église, c'est, je crois, des temps de croissance. Une église qui crie Alléluia très fort et qui serait en conflit, nos Alléluia vont à 2,20 à peine, pour les plus grands. Parce que nous avons peut-être oublié une personne, des personnes dans l'église. On ne les a pas vues. Mais des personnes qui ont à côté de nous des blessures intérieures profondes. Et qui, nous voyant passer à côté d'elles comme si elles n'existaient pas, ont été encore plus blessées, ont souffert de notre oubli. On souhaite les vœux à tout le monde, sauf à deux personnes, admettons. Je donne un exemple. La personne a dit, mais comment ça se fait qu'on ne m'a pas vu? Il y a besoin de réconciliation. Et puis la personne qui a été oubliée, peut se mettre en colère en disant « Mais quoi? Je pensais que l'Église était plus parfaite que ça. » Voyez-vous, on a une fausse idée de l'Église aussi. Pourquoi ce décalage entre les paroles et leurs prières magnifiques et leur vie? Ils m'ont oublié. Il y a besoin de se réconcilier avec tous. Nous découvrons, c'est vrai, qu'un jour ou l'autre, que l'Église n'est pas parfaite. Vous l'avez déjà découvert? Mais ne pleurons pas là-dessus. Dieu sait que nous sommes boiteux, aveugles. Je reprends la parole qu'il disait aux apôtres, hommes sans intelligence. Hein? Je peux vous la dire, à moi aussi. Hommes sans intelligence. Le Seigneur le sait. Mais il n'a pas dit à ses apôtres, je vous mets tous dehors. Il les a gardés avec lui. C'est vrai que nous sommes assis, mais je crois aussi que nous sommes capables de marcher ensemble et de faire un travail de réconciliation de recoudre entre nous des relations. Je dis Amen, moi, Amen. Nous avons ce ministère de réconciliation, on l'a lu, qui va servir à toute l'Église, qui est un corps. L'Église, c'est un corps. Et il ne faut pas le matin, quand je viens au culte, que j'oublie ma tête, mon Dieu, ou une main ou une jambe. Si nous sommes dans ce souci de la réconciliation avec tout cela, les personnes les plus petites, mais les plus petites parfois à nos yeux, à nous, pas aux yeux de Dieu, les personnes les plus brisées, les personnes âgées, les personnes malades, vont se retrouver au cœur de l'Église, à la place d'honneur, parce que nous allons nous occuper d'elles, nous allons prendre soin d'elles. Elles ne seront plus dans la marge, mais elles seront au centre. Dans la réconciliation, en faisant attention à tout le monde, nous allons permettre à tout le monde de grandir et de développer, eh bien, finalement des dons, des talents. Nous avons tous des capacités d'aimer, de faire, de construire, de créer. Mais c'est une lutte constante, la réconciliation. Il ne faut pas être dans la lune. Parce qu'il y a parfois le tempérament de certaines personnes, leur façon d'être, qui s'oppose à nous. Parfois, je me dis, il y a des frères et sœurs qui ont le ministère de nous affronter, de nous contredire. Ça, c'est blanc. Non, c'est noir. Ah bon. Ça, c'est noir. Non, c'est blanc. Oui, il y a des gens comme ça. Eh bien, malgré cela, Jésus nous appelle à former un seul corps. Amen. Il ne faut pas rechercher une église où tout le monde va se ressembler. Chercher la fusion. Il y en a qui disent, ah, j'aime bien parce que là, il y a de la fusion avec un tel et une telle. La fusion, ça finit par la confusion. L'église, ce n'est pas une armée de gens théologiens parfaits, mari d'une seule femme, des enfants parfaits, tout est parfait. Les apôtres, entre nous, si vous les aviez vus aujourd'hui, si on les voyait dans leur réalité de la terre, on se dirait, mais ils sont épouvantables. L'Église, avec ses difficultés, retenez bien ceci, est toujours un don de Dieu. Ça, il faut le dire. Il ne faut jamais critiquer une famille. C'est comme si le père critiquait toute sa famille parce qu'il y a un enfant qui ne va pas très bien. En disant, c'est une famille qui ne vaut rien du tout. Non. La famille, c'est un don de Dieu. L'Église est un don de Dieu. Et quand il y a forcément, il y a des gens, il y a des tensions parfois. C'est une école de confiance en Dieu. C'est une école pour se faire confiance. C'est une école pour se purifier. Mais il faut beaucoup prier. Et il faut travailler. Il faut bosser l'Église. Bosser, ça veut dire quand... Autrefois, on disait ça, je ne sais pas si ça se dit, il faut bosser les mathématiques, on disait. Il faut les travailler. Il faut bosser l'Église. Parce que l'Église est dans un changement perpétuel. Ça bouge. Il y a toujours des changements. D'abord, nous changeons. Parfois, on ne reconnaît plus certains tellement ils ont changé, en bien ou en mal. Et puis, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, non? Alors, il faut toujours être en écoute. Une église qui grandit, c'est une église qui va souffrir. J'étais l'aîné de trois sœurs. Mais quand elles sont arrivées, oh là 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 là, la vie était dure. Il fallait que je m'occupe d'elles, que je les promène, que je fasse beaucoup de choses à la maison. Avant, j'étais tranquille, j'étais tout seul, j'étais bien. J'étais seul au monde, bien choyé par mes grands-parents. Mais quand les sœurs sont arrivées, quelle misère! Une église qui grandit, c'est une église qui souffre, parce qu'il faut faire attention à tous. Il faut veiller sur nous-mêmes, il faut veiller sur les autres. Mais une église qui ne grandit pas, entre parenthèses, c'est aussi une souffrance, non? Oui, la croissance que nous allons vivre tous, que nous allons faire cette année, ça va parfois nous dépasser. On dira, on ne connaît plus tout le monde. Mais justement, c'est un appel de Jésus à veiller sur notre vigilance à nous, à veiller sur notre regard, savoir regarder autour de nous, écouter les autres, diminuer parfois, renoncer à certaines choses pour être proche des autres. C'est compliqué ce matin, ça va ? On aime bien, nous, la mer d'huile, vous savez, tout est calme. Mais Jésus nous appelle parfois à marcher sur les eaux en tempête. Qu'est-ce que vous aimez bien ? Rester dans votre cabine, en le bateau, avec une mer d'huile, il n'y a pas de mouvement, ça ne bouge pas. Ou marcher sur l'eau vers Jésus. La réconciliation va nous obliger à rallumer en nous la flamme du don de Dieu. La flamme de la maîtrise de nous-mêmes, la flamme de la sagesse, l'intelligence du cœur, la flamme de l'amour, de la compassion, entrer dans le cœur des autres, pas pour y fouiner et chercher des secrets, mais pour comprendre la détresse de certaines personnes qui sont au milieu de nous. J'écoutais Adeline, je connaissais son témoignage, mais j'ai toujours imaginé sa souffrance. On n'a pas vécu cela, on ne peut pas comprendre. On a vécu parfois des accidents de voiture, des incendies dans la maison. Et ça reste marqué, c'est une blessure permanente. Ne cherchons pas une sécurité, tranquillité, risque zéro. Moi, je prends mon culte et puis c'est tout. Je viens pour prendre mon culte. Tout ça, c'est faux, ce n'est pas des bonnes paroles. On ne prend pas notre culte, on donne au culte, on donne à Dieu, on donne aux autres. Alors si nous parlons comme ça, je viens chercher mon culte, moi c'est ma tranquillité, ma sécurité, j'ai ma paix, amen, merci Seigneur, gloire à Dieu, au revoir, à dimanche prochain, j'ai failli dire à mardi, à dimanche prochain. Là, nous nous détournons du bon berger, qui lui n'arrête pas. Tout le monde, il est là. Je l'imagine au milieu de l'église, je ne le vois pas, mais je l'imagine allant d'agneau en agneau, de brebis en bélier. Et là, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Ben, faisons comme lui. Amen. Un des plus beaux moments du culte, pour moi, vous savez quand c'est c'est la Sainte Cène, c'est la prédication, c'est les chants. Puis il y a aussi un moment important dans le culte, c'est après le culte. Quand il ne pleut pas. Mais même quand il pleut. Être dehors, dans ce flot qui m'entraîne, entraîné par la foule. Parfois, je me retrouve sur le trottoir, mais j'aime bien toucher les enfants, les saluer, embrasser tous les frères et sœurs, et puis prendre des nouvelles rapides. Vous commencez à me parler, il y a un autre qui vous coupe la parole, et puis après, vous partez, et puis... J'aime ça, parce qu'il faut tisser des liens entre nous, il faut faire attention que personne ne soit oublié. Avez-vous souhaité vos bons voeux à toute l'Église ? Amen, oui. Non. C'est encore le moment de le faire. J'assure, c'est fatigant parfois. Je rentre le midi, ouf, je me remets au travail pour l'après-midi, et le soir, ouf, je me remets au travail pour le lundi, mais je suis fatigué. Mais c'est ça la vie de l'Église. Mais j'ai ce verset de la Bible pour terminer, pour la réconciliation. Le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué. Ésaïe 40. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Les aigles, c'est extraordinaire ces bêtes. Toutes les bêtes sont extraordinaires. Ils se mettent dans le courant d'air qui monte. Ils ne font pas trop d'efforts, ils sont là. Et le courant les emporte. Ils montent. Et nous, eh bien, on est comme ça. On a aussi de l'intelligence. On se met sur la parole de Dieu. On l'aime, on l'écoute. Et c'est un courant d'air du Saint-Esprit qui nous enlève. Amen. Et nous nous élevons. Il court et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. Je vous en supplie au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec votre frère et votre sœur. Que Dieu bénisse l'Assemblée. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous aide à tisser à nouveau du lien entre nous, pour que nous soyons un seul corps et que personne ne vienne à partir parce qu'il n'aurait pas trouvé la chaleur et l'écoute, la fraternité, mais qui est suffisant pour ces choses. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, pour mieux saisir avec nos mains tous ceux qui sont parfois dans les blessures, l'abandon, des détresses, des secrets, des chagrins, des déceptions. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons nous communiquer un souffle d'amitié, de fraternité, de solidarité, de chaleur. Nous voulons venir au culte pour toi et pour nos frères et sœurs. Amen. Merci pour ta parole de ce jour. Amen.